Chapitre 11. Oakenberry ne reconnut aucun des Moravec qui le rencontrèrent à l'intérieur de la bulle bleue, dans le cratère Stickney, sur la lune Phobos. En entendant le déclic émis par le champ de force qui se désactivait, l'exposant aux éléments, il avait paniqué et retenu son souffle pendant plusieurs secondes, persuadé de se trouver encore dans le vide. Puis il avait senti la pression de l'air sur sa peau, un air d'une température des plus clémentes. Aussi s'était-il aventuré à inspirer pendant que le petit Manmut lui présentait les Moravec qui s'avançaient vers eux avec la solennité d'une délégation officielle. Un moment des plus embarrassants. Puis Manmut s'était éclipsé, laissant Oakenberry seul avec les étranges machines organiques.
« Soyez le bienvenu, Dr. Oakenberry, » dit le plus proche des cinq Moravec qui lui faisaient face. J'espère que le voyage de Mars à ici s'est passé sans encombre.
L'espace d'une seconde, Oakenberry se sentit pris d'une vague nausée en s'entendant donner du docteur. Manmut s'était déjà adressé à lui en utilisant son titre, mais au cours de la décennie qu'avait duré sa seconde vie, presque personne, personne tout court ne l'avait appelé ainsi, hormis peut-être son collègue Knighton Elser, et encore ne l'avait-il fait que par dérision.
Merci, je veux dire, excusez-moi, je n'ai pas bien compris vos noms, je vous demande pardon, j'étais distrait. J'ai cru que j'allais mourir quand mon siège m'a laissé tomber, acheva-t-il pour lui-même.
Le petit Moravec opina.
Je n'en doute pas, dit-il. Il y a beaucoup d'activité dans cette bulle, et l'atmosphère en transmet sans peine le bruit.
On ne pouvait mieux dire. La gigantesque bulle bleue, recouvrant une surface d'un hectare au bas-mot, Oakenberry n'avait jamais été doué pour estimer distance et superficie, sans doute pensait-il parce qu'il n'avait jamais pratiqué de sport, grouillait de grues et autres machines, plus grandes encore que les buildings de sa bonne ville de Bloomington, Indiana, de globes organiques palpitants qui évoquaient des flancs mobiles de la taille d'un court de tennis, de centaines de Moravec, tous s'afférant à une tâche quelconque, et de globes flottants dispensant lumière et rayons laser capables de trancher, de fondre et de souder. La seule chose qui lui semblait familière dans ce capharnaüm, quoiqu'elle y fût complètement déplacée, c'était la table ronde en bois de rose qui se trouvait à 10 mètres de lui. Elle était entourée de 6 sièges de hauteur variable.
« Mon nom est Astikche, » déclara le petit Moravec. « Je suis européen, comme votre ami Manmut. »
« Européen ?» répéta bêtement Oakenberry.
Il s'était rendu une fois en France pour y passer ses vacances, et une fois à Athènes pour y assister à un symposium d'hellénistes, et bien qu'il y eût rencontré des gens différents de lui, aucun ne ressemblait à cet Astikche. Celui-ci était plus grand que Manmut, atteignant sans doute 1m20, et plus humanoïde, surtout côté main. Mais il était recouvert du même matériau, mi-métal, mi-plastique, jaune canari plutôt que gris-noir. Oakenberry pensa à un ciré qu'il adorait porter étant enfant.
« D'Europe !» dit Astikche sans paraître irrité. « La lune glacée de Jupiter. La patrie de Manmut. Et la mienne.
»« Mais oui !»
fit Oakenberry. Il se sentit rougir, ce qui ne fit qu'accroître sa confusion.
« Pardon, mais oui, je savais que Manmut venait d'une lune. Pardon. »
« Mon titre, encore que titre soit un terme trop formel, celui de fonction serait plus approprié. Ma fonction est celle de prime intégrateur du consortium des cinq lunes. »
Oakenberry s'inclina d'un iota, comprenant qu'il était en présence d'un politicien, ou à tout le moins d'un haut fonctionnaire. Il ignorait les noms des 4 autres lunes. Il avait entendu parler d'Europe durant sa première vie et se rappelait qu'à la fin du 20e siècle et au début du 21e, on découvrait une nouvelle lune jovienne toutes les semaines, du moins lui semblait-il, mais leur nom lui échappait. Peut-être ne leur en avait-on pas donné avant sa mort. Et puis, il avait toujours préféré le grec au latin et estimait que la plus grosse planète du système solaire aurait dû être baptisée Zeus plutôt que Jupiter, même si cela aurait pu prêter à confusion dans les circonstances présentes.
« Permettez-moi de vous présenter à nouveau mes collègues, » conclut Astikche.
Sa voix rappelait quelque chose à Oakenberry et il l'identifia soudain. Elle ressemblait à celle de l'acteur James Mason.
« Le grand gentleman à ma droite est le général Baby Nadi, commandant du contingent de Moravec de combat venu de la ceinture des astéroïdes.
« Docteur Hockenberry, dit le général Bebinadi, enchanté de faire enfin votre connaissance. »
Le grand Moravec ne lui tendit pas la main, vu qu'il n'en avait point, il n'était équipé que de pinces barbelées avec une myriade de manipulateurs motorisés.
« Un gentleman, se dit Hockenberry. Un Rockvec. »
Au fil des 8 derniers mois, il avait vu des milliers de Rockvec sur les plaines d'Ilium et autour d'Olympos, des humanoïdes tout noirs mesurant 2 mètres de haut, tout comme le général, des statues mouvantes assemblées à partir de barbelures, de crochets, de crêtes chitineuses et de dentelures acérées.
De toute évidence, la beauté n'est pas un critère de sélection, naturel ou artificiel, dans la ceinture des astéroïdes, se dit-il en son fort intérieur. « Tout le plaisir est pour moi, général Bebinadi, dit-il en s'inclinant.
À ma gauche, continua l'intégrateur prime Astigche, l'intégrateur Choli de la lune Callisto.
Bienvenue sur Phobos, docteur Hockenberry,
dit Choli.
La douceur de sa voix était quasiment féminine.
Les Moravec ont-ils un sexe?
Se demanda Hockenberry. Il avait toujours considéré Manmut et Orphu comme des robots masculins et les Rockvec semblaient exsuder la testostérone. Mais chacune de ces créatures était dotée d'une personnalité bien distincte. Alors, pourquoi ne serait-elle pas sexuée?
« Intégrateur Choli, répéta Hockenberry en s'inclinant de rechef.
Le Callistan, callistoïde, callistonien, était plus petit qu'Astigche, mais moins gracile et moins humanoïde. Encore moins que Manmut. À son grand étonnement, Hockenberry aperçut des morceaux de chair rose sous le plastique et l'acier de sa carapace articulée. L'intégrateur Choli évoquait un Quasimodo miniature composé de rebuts métalliques et de pièces détachées d'automobiles, avec des bras désossés, une multitude d'yeux de toutes les tailles et une étroite mâchoire rappelant la fente d'une boîte aux lettres. Vu son nom, c'était peut-être bien des ingénieurs chinois qui étaient à l'origine de sa conception.
Derrière Choli se tient Suma 4, poursuivit Astigche de sa voix mielleuse. Suma 4 est originaire de la lune Ganymède.
Proche d'un être humain par sa taille et ses proportions, Suma 4 ne l'était point par son apparence. Haut d'1,90 m environ, le Ganymédien était pourvu d'un torse, d'un bassin, de bras et de jambes à peu près normaux, avec le bon nombre de doigts à chaque main, sauf qu'il était gainé dans une enveloppe liquide d'un gris métallisé, une matière que Manmut appelait fulrène. Mais Hockenberry n'en avait vu jusque-là que sur la coque d'un frelon. Découvrir une personne, ou un Moravec, qu'il utilisait comme combinaison, c'était plutôt déconcertant. Pas autant toutefois que les yeux démesurés du Moravec, des yeux pourvus de centaines de facettes étincelantes. Hockenberry ne put s'empêcher de se demander si Suma 4 ou ses semblables n'avaient pas débarqué sur la terre de son temps, par exemple à Roswell dans le Nouveau-Mexique. Suma 4 avait-il de la famille congelée dans la zone 51?
Non, se rappela-t-il, ces créatures ne sont pas des extraterrestres, ce sont des entités mi-robotiques, mi-organiques que les hommes ont conçues et construites pour les disperser dans le système solaire, des siècles et des siècles après ma mort.
Comment allez-vous, Suma 4? Dit Hockenberry.
Enchanté de faire votre connaissance, docteur Hockenberry,
répondit le Moravec Ganymédéen. Sa voix ne rappelait en rien James Mason, pas plus qu'elle n'était féminine. L'être de lumière aux yeux de mouche grayonnait comme une lessiveuse chargée de cailloux.
Permettez-moi de vous présenter le dernier représentant de notre consortium, reprit Astigche. Rétrograde Sinopesen, d'un Maltais.
Rétrograde Sinopesen?
Répéta Hockenberry en réprimant un rire nerveux, comme il aurait voulu s'étendre, s'endormir et se réveiller dans son bureau, dans sa vieille maison blanche proche de l'université de l'Indiana.
Oui, rétrograde Sinopesen, dit Astigche en dedelinant de la tête.
Le Moravec ainsi nommé s'avança en trottinant sur ses pattes d'araignée argentées. Hockenberry remarqua que Monsieur Sinopesen avait à peu près la taille d'un transformateur pour train électrique, bien qu'étant nettement plus brillant, avec des nuances d'aluminium dans les reflets et que ses 8 pattes étaient fines au point d'en être presque invisibles. Sur la surface et à l'intérieur de la boîte, brillait une multitude d'yeux ou de diodes ou d'ampoules, au choix.
Je suis ravi, docteur Rockenberry,
dit la boîte d'une voix de basse rivalisant avec les grondements subsoniques d'Orfudio.
J'ai lu tous vos livres et tous vos articles, du moins ceux qui ont été conservés dans nos archives. Ils sont excellents. C'est un honneur de vous rencontrer en personne.
Merci, dit Rockenberry qui se sentait bien stupide.
Il considéra les cinq morts avec, puis les centaines de créatures qui s'agitaient dans la bulle pressurisée, s'affairant sur des machines qui lui étaient incompréhensibles, puis se tourna vers Astikche et lui dit
« Bon, qu'est-ce qu'on fait ?»«
Et si nous nous asseyons autour de cette table pour discuter de notre imminente expédition sur Terre et de votre éventuelle participation ?»
suggéra l'intégrateur prime européen du consortium des Cinq Lunes.
« D'accord, » fit Thomas Rockenberry. « Pourquoi pas ? »